Donc, un troisième variant du virus qui a été détecté au Japon. On va aller rejoindre le docteur Richard Marchand, microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Marchand.
Bonjour, M. Drainville.
Content de vous retrouver. Bonne année.
Bonne année à vous aussi.
Dites-moi, d'abord, racontez-nous ce qui s'est passé au Japon pour qu'on comprenne un petit peu mieux, là.
Bon, il y a des visiteurs qui sont arrivés, qui ont été testés positifs, une famille complète, je crois, c'est ce que j'ai entendu, et qui auraient démontré la présence d'un variant, d'une nouvelle variante. Mais en fait, les virus mutent constamment. Il n'y a pas juste le virus de la grippe qui fait ça, mais les coronavirus, on le sait depuis les années, en fait, depuis 50-60 ans. Et juste en Chine, dans les trois premiers mois, il y a eu 19 variants. Fait que les virus mutent et à tout moment, ben, un des risques qu'on a et qu'on prend, c'est qu'on a un variant qui pourrait devenir ou s'évader des vaccins qu'on développe ou du vaccin qu'on développe.
Bon, c'est ça. C'était ma prochaine question. Il y a toujours le risque qu'un variant devienne, comment dire, qu'il soit capable de nous contaminer et que même si on a été vacciné, qu'on puisse quand même non seulement le contracter, mais développer la maladie. Là. C'est ça l'affaire. Là.
C'est exactement ça. Et de façon naturelle, le virus faisait ça. Par exemple, on a suivi le SRAS en 2003, 2004, 2005, qui avait eu lieu là, fin 2002. Et on a vu qu'après 2 ou 3 ans, ceux qui avaient fait le SRAS, quand on revenait avec le virus de base, ils avaient encore des défenses. Et même encore aujourd'hui, 14 ans, 15 ans plus tard, ils ont encore des défenses très solides. Mais que les virus qui avaient muté un petit peu entre-temps ben, avaient réussi à échapper au système immunitaire à la base. Donc, effectivement, il y a des mutants. Et c'est pour ça qu'au Québec, on suit les souches déjà depuis le début, là, depuis le printemps dernier. On envoie les virus régulièrement à la Génome Québec, qui est située à Chicoutimi, et on fait ce qu'on appelle du séquençage des virus à grande échelle, là, au fur et à mesure, pour s'assurer que les virus ne nous mutent pas dans les mains et qu'on se ramasse avec une couverture qui ne fonctionne pas. La plupart des pays font ça. Par exemple, des pays scandinaves, on avait trouvé un mutant chez les visons. Fait qu'on a abattu tous les troupeaux ou presque. On a eu même la même chose ici en Amérique du Nord, ce qui fait que c'est une surveillance qu'on doit faire.
Mais c'est quoi le risque? C'est quoi le risque, docteur Marchand, que je m'écoute dans ma tête, là, poser la question, puis je j'aime pas ça, là. Mais c'est quoi le risque, à un moment donné, qu'on réalise que le vaccin est inefficace, qu'on s'est fait vacciner pour rien parce que le variant est tellement différent du coronavirus initial qu'il faut inventer un nouveau vaccin?
Bon, disons que celui qui fait ce genre de prédiction-là de façon claire, ils l'ont mis sur une croix il y a 2000 ans. OK, ça c'est une chose et je ne voudrais pas être crucifié. Ceci dit, quand on vaccine avec un vaccin qui a une grosse protéine sur lequel il y a plusieurs sites, plus vous pouvez développer des anticorps contre plusieurs sites de la protéine, ce qui fait que s'il y a une mutation sur un seul site, bien, les autres sites peuvent continuer à vous protéger. Les anticorps contre les autres sites. Okay. Donc, un vaccin qui utilise des grosses protéines ou complet en vaccination, et ça, c'est les futurs vaccins qui vont nous arriver à partir du mois de mai, juin ou quelque chose comme ça, ben, vont avoir beaucoup plus de solidité ou de capacité de résister en cas de mutation. Les deux vaccins actuels sont sur nous vaccinent contre un site très pointu, très aigu. S'il y avait une mutation sur ce site-là, alors qu'il n'y a pas d'autres sites de protection autour, là, ben oui, on est plus à risque. Donc, nos vaccins initiaux, ceux qu'on a maintenant, sont plus à risque de voir s'échapper les défenses que les futurs vaccins. Donc, autrement dit, ça va changer dans le temps, ça. À court terme, on vaccine parce que les vaccins sont très efficaces, mais ils ont un risque plus grand d'avoir une échappée, alors que les vaccins qui vont nous arriver probablement à partir du mois de juin, qui vont être beaucoup plus simples d'ailleurs à administrer, parce qu'ils n'auront pas besoin de moins 80 ou moins 70, ben, vont amener des protéines complètes du virus, capables de nous immuniser contre plusieurs parties des protéines virales, et à ce moment-là, ben, vont être probablement, et pas juste probablement, très beaucoup plus résistant aux mutations potentielles.
Donc, notre risque par rapport à ces variants, il est à court terme. C'est à court terme.
Plus à court,
ouais.
Oui. Hein? Beaucoup plus à court terme qu'à long terme. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir cette surveillance. Et c'est pour ça que vous voyez cette forme, je dirais, d'anxiété jusqu'à un certain point de l'OMS et des gens qui vaccinent en suivant. Ben, chaque fois qu'il y a un nouveau variant, ben, on le regarde, puis on regarde si la mutation va être significative pour échapper ou pas au vaccin. Et en attendant que les prochains vaccins arrivent, et d'ailleurs, les prochains vaccins, il faut être clair, hein, le vaccin actuel qu'on utilise à moins 70, qui est un aria complet à déménager, puis à déplacer, puis qui n'est pas facile à faire vacciner, bien, dès on va voir arriver les vaccins qu'on garde au frigo, tout simplement, ou encore à température pièce, bien, il va disparaître complètement, là, on ne l'utilisera plus. Et ces vaccins successifs-là qui vont arriver par la suite devraient nous protéger beaucoup mieux, oui.
OK. OK, bien ça, c'est vous êtes quand même assez rassurant. Vous êtes quand même assez rassurant. Donc, il faut passer au travers. Donc, en ce sens-là, là, je ne veux pas vous amener sur un terrain politique, mais le couvre-feu qui vise à diminuer les déplacements, qui vise à diminuer les rassemblements, parce qu'on ne peut plus se rassembler, parce qu'on ne peut plus se déplacer, dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être assez drastique à court terme pour... notamment faire passer cette période pendant laquelle on est plus à risque par rapport à ces nouvelles variantes du virus. Il faut trouver une façon de passer au travers des 2 ou 3 prochains mois, parce que d'ici la fin de cette période de 2, 3, peut-être 4 mois, on va avoir des vaccins beaucoup plus efficaces qui vont pouvoir mieux nous protéger.
Il y a ça aussi, mais la probabilité d'une mutation qui nous permettrait d'échapper au vaccin ou qui permettrait au virus d'échapper au vaccin dépend du nombre d'infectés. Plus il y a de monde infecté, plus il y a de virus répliqué, plus il y a de probabilité d'une mutation. Donc, si on veut diminuer les probabilités de mutants qui nous ferait échapper au vaccin, ben il faut diminuer le nombre d'infectés. Fait que il faut tout faire, et c'est pour ça que des activités de confinement, des activités qui coupent les échanges et potentiellement le développement des infections, ben ça diminue le risque de développer aussi des mutants.
Dernière question. Est-ce qu'on a répondu à la question quant à savoir si une fois qu'on est vacciné, on est encore contagieux? Parce qu'on comprend, quand on est vacciné, on ne développe plus la maladie, on est protégé contre le développement de la maladie, donc on ne peut plus tomber malade. Mais est-ce qu'on peut quand même continuer à transmettre le virus à quelqu'un d'autre? Est-ce que ça, on a une réponse à cette question?
Bien, on a une réponse du SRAS qui avait été fait en 2003, qui est le cousin, si vous voulez, quasiment le jumeau du virus actuel. En 2002, fin 2002, début 2003, il y a le SRAS, et vous vous rappelez à Toronto ce qui est arrivé. Mais en 2004, 2005 et 2006, on a pris des volontaires. Il y a eu 18 études, à ma connaissance, qui ont été faites avec des volontaires qui avaient fait le SRAS et qu'on a réexposé, donc 2 ou 3 ans plus tard. Et dans les volontaires, on parle de plusieurs centaines de personnes dans ces 18 études-là. Pratiquement aucun, je pense qu'il y en a juste un qui a été un petit peu malade avec un peu un mal de gorge temporaire, mais la plupart n'ont pas été malades. Mais par contre, on a bien démontré que à peu près 15 à 20% pouvaient sécréter du virus en petite quantité, assez pour infecter cependant, mais qui était loin de ressembler à ce qu'on appelle un super propagateur. Un super propagateur, c'est quelqu'un qui peut sécréter une quantité astronomique de virus et peut en infecter 10, 15, 20, 30 d'un coup, là, autour de deux. Fait que les gens peuvent excréter du virus en petite quantité et ne sont pas aussi contagieux en général.
D'accord. OK.
Ça, c'est ce que nous a montré le SRAS et le MERS-CoV, là, le virus du Moyen-Orient qui a été un petit peu plus tard, là, quelques années. Donc, on peut raisonnablement conclure que ce virus-là, qui est un cousin, si vous voulez, quasiment un jumeau même, va faire probablement la même chose. C'est-à-dire que les gens ne feront pas la maladie. La possibilité de transmettre la maladie va être là, ne sera pas zéro, mais beaucoup moindre que les asymptomatiques ou les symptomatiques, là, super propagateurs.
Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on est vacciné, jusqu'à temps qu'on n'ait pas obtenu l'immunité collective, il va falloir continuer à porter le masque, même si on est vacciné?
C'est probablement le cas, oui. c'est ce que ça veut dire. Okay. Et c'est ça qui va être le plus difficile, c'est que les gens vont avoir beaucoup de difficultés. Tu sais, ça va être une discipline personnelle, hein. Ça sera pas facile de se convaincre de continuer à porter le masque, de travailler dans des conditions, par exemple, en milieu hospitalier avec tous nos déguisements de martiens, alors qu'on s'est vacciné et on se sent peu malade. Mais c'est qu'il est possible, effectivement, que le 2 ou 3 % parce qu'on parle de 95 % d'efficacité, mais ça fait un 5 % et on ne sait pas c'est qui le 5 % de gens qui pourraient continuer à transmettre la maladie. Bien, ce 5 %-là, il faut l'empêcher de transmettre à d'autres et on devra, pour l'ensemble, porter probablement des masques pendant encore un bout de temps.
Donc, le taux d'efficacité, c'est ça? Ça correspond à notre niveau, au nombre de personnes qui restent contagieuses? Je pensais, moi, que 95 % c'était 95 % des personnes vaccinées ne tomberont pas malades, puis il reste un 5 % qui pourrait tomber malade. C'est pas ça.
Ils pourraient tomber malades, mais s'ils ne sont pas malades, ils pourraient transporter le virus aussi. Puis même dans le 95 % qui ne tombent pas malades, il y en a qui peuvent excréter du virus, comme je vous disais tantôt. Mais en petite quantité.
Très bien.
Donc, la transmission en phase originale, surtout au début des... Tant qu'on n'aura pas monté à 40-50% d'immunité dans la population, bien, ce petit groupe-là va rester important dans le mode de transmission.
Dr. Richard Marchand, microbiologiste et infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Merci beaucoup.
Bienvenue.
On s'en va à la pause, hein? Et puis, c'est notre ami Patrick Lagacé qui s'amène pour sa petite jasette quotidienne dans un instant.